compte dans 15 pays d'Afrique, Suno Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver en ce début d'année. Comme je n'en ai pas eu encore l'occasion, eh bien je vous adresse moi aussi en compagnie de toute l'équipe de Priorité Santé nos meilleurs vœux pour 2018, où que vous soyez dans le monde à nous écouter. Certaines dates restent associées pour longtemps à des événements gravés dans l'imaginaire collectif. Et depuis 3 ans, le 7 janvier est de celle-là. Janvier 2015. Pour les Français, c'est Charlie le Carnage dans la rédaction de l'hebdomadaire satirique, premier d'une série d'attentats qui, en l'espace de 18 mois, ont fait 230 morts sur le sol français, des blessés par centaines, des victimes par milliers. Charlie Hebdo, Montrouge, l'Hypercacher, 11 mois plus tard, le 13 novembre, le Bataclan, Saint-Denis, les terrasses de l'Est parisien et puis juillet 2016, Nice, la promenade des Anglais, Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie, énumération macabre des actes de violence intentionnelle contre des inconnus qui, aux yeux de leurs assassins, incarnaient des symboles, des milliers de personnes prises en charge par des psychiatres, des psychologues, le choc, le deuil, et depuis l'hiver 2015, les alertes, les avertissements des autorités, les fouilles systématiques, l'accès restreint à certains lieux, portiques dans les hôpitaux, portiques encore pour aller voir des spectacles. A-t-on fini par s'habituer à ces nouvelles règles? Comment le corps et l'esprit réagissent-ils à force d'évoluer dans cette routine de la peur? Est-ce qu'on sort indemne de cette menace, suspicion généralisée de cet état d'urgence? Question que l'on va se poser aujourd'hui dans Priorité Santé. On en parle donc avec nos invités, le professeur Thierry Bobet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, chef du service à l'hôpital Avicenne à Bobigny, en banlieue parisienne, responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique de Seine-Saint-Denis. Avec nous également, docteur Stéphanie Van den Toren, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste à l'Agence régionale de santé, docteur en médecine à l'Université Bordeaux 2. On vous retrouve justement à Bordeaux en direct des studios de nos confrères de France Bleu Gironde, que l'on remercie bien sûr pour leur hospitalité. En deuxième partie d'émission, nous joindrons en Tunisie le docteur Anissa Bouasker, psychiatre à l'hôpital Razi à Tunis. Docteur Bouasker qui avait coordonné la cellule d'assistance psychologique lors des attentats du Bardo de mars 2015 à Tunis. Et puis bien sûr, pour poser vos questions, pour réagir, le numéro de l'émission, il n'a pas changé, c'est toujours le 33 80 82 75 75. Alors, lorsque l'on évoque ces attentats de 2015, leurs conséquences, il y a bien sûr différents cercles d'impact, différents groupes de personnes affectées. Si vous le voulez bien, on va effectivement évoquer les personnes directement touchées, leur entourage, mais aussi la communauté qui a elle aussi ressenti l'effet de ces actes, notamment parce qu'une série de règles ont changé après les attentats, si bien qu'aujourd'hui, on peut le dire, notre quotidien en France porte toujours les traces de ces événements tragiques qui ont donc commencé ce 7 janvier avec l'attentat de Charlie Hebdo. Professeur Thierry Bobet, est-ce que lors des consultations en psychiatrie, certains de vos patients qui n'ont pas forcément été affectés directement, personnellement, par ces attentats, ressentent le besoin de vous parler de ces événements?
Alors, c'est un besoin qui a été constaté chez tous les patients, quel que soit leur motif de consultation, dans la période de 2015, la période qui a accompagné ces attentats. Le vécu des patients, quelle que soit leur pathologie, leurs troubles, anxiété, dépression, psychose ou autre, évolue bien sûr avec ce qui se passe dans l'environnement, et c'est un sujet dont on a énormément parlé à ce moment-là. Aujourd'hui, sans doute un peu moins. On continue d'en parler beaucoup avec les personnes qui ont été touchées, en revanche.
Des personnes que vous continuez de suivre. Est-ce que vous pouvez nous dire combien, par exemple, viennent vous voir dans votre service, et quel type de pathologie? Est-ce qu'il y a des noms spécifiques qui reviennent dans ces troubles psychiatriques consécutifs à cette violence extrême?
Bien sûr, il y a ce qu'on appelle les troubles post-traumatiques, dont pour certains patients en tout cas, ces troubles deviennent extrêmement chroniques sur le très long terme et avec des effets très dommageables sur l'ensemble des secteurs de leur vie, que ce soit la santé mentale, la santé physique, mais aussi la capacité à travailler, la capacité à aimer, à être en relation avec les autres, vraiment la capacité à vivre tout court. Et chez l'enfant, ce sont les capacités de développement qui sont affectées. Donc les conséquences sont lourdes. Alors, vous savez qu'après la confrontation à un événement traumatique, seule une partie des personnes va développer des troubles. On estime que, par exemple, pour le Bataclan, d'après les données qu'on aurait actuellement, ça serait un peu moins de la moitié des personnes qui étaient dans le Bataclan qui ont développé des troubles post-traumatiques. Et ces troubles post-traumatiques, chez un, alors quand ils apparaissent, c'est en général dans les 6 mois qui suivent l'événement. Mais pour 10% des personnes, par contre, la date d'apparition est retardée. C'est au-delà de 6 mois.
Ce qui nécessite donc une prise en charge sur un long terme, pas s'arrêter simplement sur les personnes qui développent des troubles immédiats.
Tout à fait. Et sur ces personnes qui développent des troubles post-traumatiques, et ben une partie, peut-être à peu près une moitié ou un tiers, va avoir des troubles qui vont durer pendant un an, et puis après, avec l'aide de la famille, avec des soins, ça va s'arrêter. Et à peu près une moitié va avoir des troubles qui vont devenir très désespérément chroniques. Et qu'on retrouve parfois intacts 5 ans, 8 ans, 10 ans après, avec des gens qui sont en invalidité, qui se sont parfois éloignés de leur famille, etc. Donc des situations vraiment importantes, importantes à repérer et importantes à prendre en charge, même si on est longtemps après, on peut toujours intervenir.
Docteur Stéphanie van den Toren, après ces attentats, plusieurs études épidémiologiques se sont arrêtées sur les conséquences de ces actes en France. Vous avez été responsable de l'une d'entre elles, l'étude Impact sur la prise en charge et les conséquences en santé mentale des victimes et des intervenants des attentats de Paris de janvier 2015. Qu'est-ce que l'on peut en dire? Est-ce que d'abord, mener ce genre d'études, c'est une démarche habituelle après ce genre d'événement?
Alors c'est en tant que épidémiologiste à Santé publique France, donc on a mené cette étude. C'est pas forcément quelque chose de classique puisque c'était une première, même si on a déjà eu des études qui ont été réalisées en 94 ou 96. On a fait quelques originalités dans cette étude, c'est qu'on a été chercher pas seulement les victimes, mais aussi les personnes riveraines ou qui travaillaient à proximité des événements, entre 50 et 100 mètres autour de chaque événement. On a remarqué effectivement qu'il y avait un impact psychotraumatique assez important, non seulement chez les victimes, mais aussi chez ces personnes qui étaient riveraines. Parce que ce qui compte en fait dans la survenue de l'état de stress post-traumatique, c'est la réaction du système nerveux autonome, donc la réaction de stress qu'on a au moment du ressenti, au moment de l'événement, et puis la réaction dissociative, péritraumatique, qui sont des facteurs précurseurs de l'état de stress post-traumatique.
Et justement, sur ces troubles, ces différents troubles, est-ce qu'il y a là encore des pathologies spécifiques qui se sont manifestées?
Oui, alors on parle de l'état de stress post-traumatique, mais pas seulement. On voit également des troubles de dépression caractérisés ou alors des troubles anxieux qui sont apparus au décours des événements, qui normalement ont tendance à décroître avec le temps. Mais comme vous l'avez souligné, malheureusement, dans le même quartier a eu lieu le Bataclan au moment de la seconde vague de l'étude, puisqu'on a étudié ce qui se passait à 6 mois, mais aussi à 18 mois après les événements. Les personnes étaient encore fortement impactées du fait peut-être des événements récents du Bataclan. Ainsi, par exemple, sur les troubles anxieux, on notait à peu près 32% des personnes qui en souffraient à 6 mois et 43% 18 mois après.
Professeur Thierry Bobet, vous aussi, vous avez justement été impliqué dans ces études après ces attentats, études nationales pour évaluer l'impact psychotraumatique de ces événements. Qu'est-ce que vous retenez justement de ces travaux ?
Alors ces travaux ne sont pas terminés, hein, puisqu'ils ont, que ce soit l'une et l'autre étude, donc l'étude Impact pour les attentats de janvier et l'étude ESPA 13 novembre, qui est un web questionnaire qui a été mis en place par Santé Publique, ces études vont être renouvelées au cours du temps, et c'est vraiment de cet aspect longitudinal qu'on attend les informations les plus précises, d'autant qu'à chaque vague, on va aller chercher des éléments supplémentaires sur des questions qu'on s'est posées suite à l'analyse des premières vagues. Donc c'est vraiment un travail qui va nous donner des données pendant peut-être 10 ans. Donc il est tôt pour conclure. Mais ce qui apparaît quand même, en tout cas pour l'étude ESPA, 13 novembre, c'est que lorsque l'étude a été faite, à peu près un an après les événements, donc c'est une étude qui a été faite auprès des personnes directement affectées par les événements, ce qu'on a pu voir, c'est que environ 40% des personnes présentaient des troubles, des plus exposées, hein, présentaient des troubles post-traumatiques invalidants, et que parmi ces personnes, près de la moitié ne disposait d'aucun suivi. Ce qui est quelque chose d'assez perturbant, quand on sait que en région parisienne, en tout cas, on peut avoir accès à un suivi, ce qui est pas le cas partout en France et dans le monde. Mais là, on peut avoir accès à un suivi. Et on sait aussi que des troubles post-traumatiques chroniques qu'on ne soigne pas vont évoluer vers des complications. Par exemple, la majoration de la dépression, par exemple, un syndrome suicidaire, par exemple encore, des addictions. Donc il y a vraiment un enjeu important à proposer des soins à ces personnes. Et un des aspects qu'on explore actuellement avec Stéphanie Vandentoren et avec Philippe Pirard de Santé Publique France, c'est la question de qu'est-ce qui fait obstacle finalement à l'accès aux soins chez ces patients.
Alors que les professionnels de santé, le système est disponible et à portée de main. On va poursuivre, si vous le voulez bien, cet échange dans quelques instants. Mais d'abord, je vous propose d'écouter un témoignage. Témoignage d'un instituteur qui enseigne à Paris en classe de CM2 sous le pseudonyme Lucien Marbeuf. Il tient un blog sur sa vie de classe. Et depuis les attentats de Charlie Hebdo, il y a 3 ans, il a déjà consacré 6 articles à ces questions liées au terrorisme. Charlie Dupiot l'a rencontré.
Alors en fait, à la rentrée 2016, on a eu un nouvel exercice qui a fait son apparition, à savoir l'exercice attentat-intrusion, donc avec une alternative, résumée en 2 verbes, s'échapper ou se cacher. Chaque école ayant un peu une latitude pour organiser la procédure, on a travaillé pendant au moins 2 conseils des maîtres, c'est-à-dire bien 2-3 heures sur ce sujet. Et puis après, il a fallu présenter aux élèves un peu, bah voilà, la procédure retenue. Et ben, ça se résumait à fermer la porte à clé, se cacher sous les tables et faire le silence. Donc voilà, l'idée c'était de présenter ça aux élèves et puis d'en discuter un peu, de voir comment ils vivaient les choses. Comme souvent, la vérité est sortie de la bouche des enfants. Donc à la fois, ils s'interrogeaient pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'il fallait faire. Et puis à la fois, bah, il y en a qui pouvaient pas s'empêcher de dire « Mais si on se cache sous les tables, quand même, soit il est nul à cache-cache, le méchant, soit il nous voit tout de suite. » Après, il y a eu évidemment un petit peu de d'emballement de certains à dire « Mais pourquoi finalement on lui sauterait pas de tous dessus ensemble, certains voulaient même préparer de l'eau bouillante pour lui faire tomber sur la tête, bref. Puis après, on a fait le fameux exercice qui s'est bien passé, j'ai fermé la porte à clé, je me suis mis sous mon bureau, j'ai pas oublié de pousser un bureau derrière la porte, et puis tout le monde s'est mis sous sa petite table en faisant le silence. Alors c'était en plein hiver, au début de l'hiver, donc forcément ça toussait, ça reniflait, de temps en temps ça pouvait pas s'empêcher de pouffer, donc le silence était un peu relatif. Et puis au bout de 4 ou 5 minutes, on a eu le signe que l'exercice était terminé. Et puis il y a une petite qui a finalement résumé les choses de manière assez limpide en disant que elle, si jamais ça arrivait vraiment, elle était sûre qu'elle allait juste paniquer, quoi. C'est elle qui a résumé les choses, c'est qu'au fond, juste, ça pose bien l'éventualité du risque dans notre quotidien. On sait que ça peut arriver, et après, face à ça, on fera ce qu'on peut.
Et justement, comment on explique à des enfants en si bas âge, ce sont des enfants en CM2 qui ont 10 années, que ça peut arriver ?
Le malheureux, c'est qu'il n'y a même pas à leur expliquer. Quelque part, ils le savent. Ça y est, ça fait 3 ans maintenant que les discussions sur le terrorisme sont entrées à l'école. Hein. Il y a eu Charlie, il y a 3 ans, qui a été un peu une onde de choc, et ça a été la première fois qu'on en a parlé en classe. Le deuxième tournant, ça a été novembre 2015.
Par rapport aux attentats de Paris, en novembre 2015, donc c'était un vendredi, le lundi suivant de la classe, est-ce que vous en avez parlé de vous-même? Est-ce qu'en fait c'est les questions des élèves qui vous ont fait en parler?
À partir du moment où je suis arrivé dans la cour pour prendre mon rang et monter mes élèves, le temps qu'on monte, j'ai 2 étages à monter pour arriver dans ma classe, la moitié de la classe m'avait demandé si on allait en parler, m'avait posé des questions, m'avait demandé ce que j'en pensais. Je savais pas exactement ce que j'allais faire, j'avais préparé des petites choses, je savais pas exactement ce que j'allais faire, mais en arrivant dans ma classe, je savais que j'avais obligation d'en parler avec eux, que ça allait générer des questions assez différentes. Est-ce que on est en danger dans la rue? Est-ce qu'on est en danger dans le métro? Est-ce que c'est vrai que les terroristes peuvent faire un attentat n'importe où? Est-ce qu'ils peuvent entrer dans l'école? À ce moment-là, la question s'est posée. Voilà, c'était des choses qui les concernaient beaucoup plus eux. Au moment de Charlie, quelque part, on se sentait un peu moins concerné directement. C'était très ciblé. Donc, les questions étaient autour de « Oh, mais c'est pas possible qu'on puisse tuer pour des dessins. » À partir de novembre 2015, ils se sont sentis, eux, concernés. Sachant que c'est très important d'arriver à trouver la juste distance avec des enfants qui ont besoin d'explications, mais qui ont surtout besoin d'être rassurés.
Et de quelle responsabilité est-ce que vous vous sentez investi, vous, en tant qu'instituteur, en cas d'attaque éventuelle de l'école?
L'école, c'est la vie. Ce qui se passe dans ma classe, enfin, c'est pas que de la conjugaison, de la grammaire ou des maths. On parle, on échange sur le quotidien. Moi, je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'enseignant dans l'accompagnement des enfants à travers cette actualité. Et puis, autre chose, c'est cette responsabilité qui nous incombe un peu malgré nous. C'est-à-dire que quand on fait cet exercice intrusion-attentat, qu'est-ce qu'on attend de nous, finalement? On attend qu'on veille à la sécurité de 30 enfants? On n'a pas été formés pour ça, nous sommes des enseignants. Donc il y a quelque chose d'un peu démesuré qui a fait irruption dans notre métier. Et aujourd'hui en France, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient cette responsabilité vis-à-vis d'une 30aine d'enfants, sans y être en plus particulièrement préparés. Mais je me souviens que quand il y avait eu l'école juive qui avait été attaquée par Mohamed Merah...
À Toulouse,
bah déjà on s'était posé la question... On s'était dit, oui, d'accord, là c'est une école juive, mais un jour ce sera une école tout court. Donc ce questionnement-là vient de loin déjà, ça fait plusieurs années que je pense qu'on est beaucoup à l'avoir. Je me dis, si jamais vraiment un jour ça arrive, j'ai bien conscience que je pourrais compter sur personne d'autre que moi pour 30 enfants et moi. Il a fallu qu'on accompagne une évolution de la société dans laquelle ils vivent. Voilà, ils se demandent jusqu'à quand ça va durer.
Il vous pose la question à vous?
Ben oui. Quand est-ce que ce sera fini? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça?
Témoignage de cet instituteur parisien recueilli par Charlie Dupiot, professeur Thierry Bobet. Tout à l'heure, rapidement, en début d'émission, vous évoquiez justement la prise en charge d'enfants après les attentats en France. Est-ce que les questions se posent différemment, justement, pour les plus jeunes?
Alors... Pas fondamentalement, puisque les plus jeunes, y compris les bébés, exposés à des événements traumatiques, peuvent aussi développer des troubles post-traumatiques. La question se pose différemment, dans le sens où ces troubles sont moins bien compris et repérés par les adultes. Les parents ont tendance à les minimiser et à ne pas les voir. Et beaucoup de professionnels ne savent pas correctement diagnostiquer les troubles post-traumatiques de l'enfant et du jeune enfant. Ce qui pose un problème particulièrement grave, puisque c'est tout le développement de l'enfant qui peut être atteint. Alors il y a une autre particularité pour les enfants, c'est la question de l'accès aux soins. Vous savez que la situation de la pédopsychiatrie en France est dramatique, avec un nombre de pédopsychiatres qui a baissé de moitié en 10 ans. Et les collègues de Nice peuvent témoigner, nous ne sommes pas assez pour faire face dans les situations de crise.
On en reparlera en deuxième partie d'émission. Vous restez avec nous, professeur Thierry Bobet, docteur Stéphanie Vandentoren. On va vous retrouver en direct de Bordeaux hein, dans 3 minutes. Ce sera juste après le point de l'actualité.
Priorité santé. Caroline Paré.
On retrouve nos invités en studio pour cette seconde partie de Priorité Santé. 8 janvier, 3 ans après les attentats de Charlie Hebdo, c'était le 7, l'hypercachère le 9. Une période ponctuée par d'autres tueries qui, au fil des mois, ont pu faire basculer les victimes, leur entourage, certaines agglomérations ou toute une partie de la population française dans des sentiments inédits, inattendus, douloureux, l'anxiété, la sidération, le déni, douter de son environnement, un sentiment d'insécurité. Toujours en direct des studios de Bordeaux, de France Bleu Gironde, on retrouve le docteur Stéphanie Vanden-Toren, responsable de Santé publique France en région Nouvelle-Aquitaine, chercheur en épidémiologie sociale à l'INSERM. Le professeur Thierry Bobet est également avec nous, psychiatre chef du service à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Professeur Bobet, ces attentats ont visé des personnes physiques, également des cibles individuelles. Est-ce qu'il y a une dimension de temps dans cette prise en charge? Est-ce que vous observez, par exemple, après une certaine période, une amélioration où chaque situation est individuelle à proprement parler?
Chaque situation est individuelle et on ne peut pas prédire au départ comment ces situations individuelles vont évoluer. Il y a des personnes qui présentent initialement des troubles importants qui vont s'amender relativement rapidement, et d'autres personnes qui au contraire semblent indemnes de troubles et chez lesquelles des troubles très graves vont apparaître et se développer au cours du temps. Même la durée de ces troubles, quand ils se mettent en place, est variable selon les personnes, avec parfois des situations de comorbidité, de pathologies qui se surajoutent et de complications, et parfois des issues absolument dramatiques. Une forte charge également de souffrance du corps, qu'on est en train d'essayer de quantifier, de décrire mieux avec ces études IMPACT et ESPA. Donc, les problèmes sont multiples et sur une échelle de temps très longue. Alors, ce qui est frappant, c'est que moi, je vois régulièrement, je m'occupe de patients traumatisés depuis très longtemps, que ce soit des traumatismes en France ou des traumatismes de guerre. Et ce qu'on voit régulièrement, c'est des patients qui viennent nous voir à un moment, pour faire un certain travail, quelques entretiens, parfois ça suffit, ils repartent, ils ont l'impression que ça va mieux. Et puis, un an après, à la date anniversaire, ils ont besoin de refaire un point, et puis de nouveau 3 ans après. Il y a des patients avec lesquels on a un suivi pointillé, comme ça, qui est tout à fait intéressant
et efficace. C'est leur propre démarche de venir vous revoir.
C'est leur propre démarche.
Et en matière de prévention, justement, pour éviter, vous disiez, certaines issues dramatiques, des tentatives de suicide, par exemple, est-ce qu'il y a un rappel de la part de vos services pour, à échéance régulière, essayer de maintenir ce contact, maintenir ce lien?
Alors, non, ça, ce n'est pas possible à organiser. Dans la phase initiale, toutes les personnes qu'on a vues, dans le premier mois, par exemple, excusez-moi, ces personnes-là, on les rappelle, effectivement, et on reprend contact. Parce qu'on sait qu'au début, il n'y a pas vraiment de demande d'aide de ces patients. Il faut aller les chercher. Excusez-moi. Quand on les a pris en charge, par contre, un certain temps, et qu'on, d'un commun accord, on décide qu'il y a un travail de fait et qu'on peut s'arrêter, là, on leur dit qu'ils peuvent nous rappeler quand ils le veulent et qu'on est à leur disposition.
Docteur Stéphanie Vanden-Toren, vous êtes donc toujours à Bordeaux en ligne. Difficile d'évaluer les effets psychologiques d'une pression continue en France, parce que régulièrement, les médias ou dans les discours officiels, on pointe précisément cette menace quasi permanente. Est-ce que, d'après les études que vous avez conduites, justement, vous avez pu voir que cela se traduisait, par exemple, en termes de pathologie, on évoque régulièrement certaines addictions qui se développent suite à ce genre de traumatisme?
Oui, effectivement, les addictions sont un problème qui survient après les attentats à court, moyen et long terme. C'est quelque chose qu'on a remarqué après les études de IMPACT, et je pense qu'on trouvera la même chose sur ESPA. Mais je voudrais revenir un peu sur ce sentiment de menace qu'on a entendu aussi dans le témoignage. Parce que les études qui ont été réalisées par des Belges ont montré que ce sentiment de menace avait aussi une influence sur l'état psychologique en fait des personnes. Et revenir aussi un peu sur l'importance de la prise en charge dont parlait Thierry Bobet, puisqu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui ne se sentaient pas légitimes pour avoir droit à une consultation. Je pense que c'est un point qui est important à soulever, pour que les personnes puissent se sentir légitimes, quel que soit le moment, Comme on a dit, la temporalité est différente pour chaque personne. Et si ça arrive 2 ans après, qu'elle se sente légitime pour avoir le droit de consulter.
Cette question de légitimité, ça veut dire que, par exemple, elle considérait qu'elle, entre guillemets, bien sûr, n'allait pas suffisamment mal, ou alors que c'était trop tard pour, justement, aller consulter.
C'est ça, c'est surtout qu'elle se compare à ceux qui ont été plus touchés qu'elle, soit par des blessures physiques, soit parce qu'elles ont perdu un proche, et qu'elles se sentent donc pas légitimes de pouvoir
se plaindre en quelque sorte.
Se prendre en charge. Voilà, c'est ça.
Et justement, ces personnes, cette démarche de venir vous voir, il y a une forme de, dans leurs paroles, une forme de culpabilité aussi qui s'exprime avec des troubles particuliers, un ressenti et un impact sur les, par exemple, les relations familiales?
Voilà, les relations familiales, sociales, c'est quelque chose qu'on remarque au long terme et qu'on va continuer d'étudier à travers ces études puisqu'elles continuent. C'est ce caractère longitudinal qui va permettre de voir l'impact sur les relations familiales, sociales et aussi professionnelles. Parce qu'il y a eu des conséquences aussi indirectes, notamment l'impact économique dans lequel les personnes qui travaillaient dans l'entreprise pouvaient être affectées. C'est ce qu'on peut remarquer d'ailleurs dans d'autres pays avec une affectation du tourisme ou d'autres choses comme ça. Et ça, ça a un impact aussi sur la dépression. Un autre facteur qui est très important, c'est le soutien social. Donc ça, ça a un impact favorable. Si les personnes sont bien entourées, ça peut avoir un impact favorable sur leur santé psychique.
Alors, autre capitale, autre pays ou autre vague d'attentats, on part pour la Tunisie maintenant, retrouver le docteur Anissa Bouasker. Docteur Bouasker, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre à l'hôpital Razi à Tunis. Vous aviez coordonné la cellule d'assistance psychologique lors des attentats du Bardo en mars 2015, l'attaque lors de laquelle 21 touristes et un garde avaient été tués, 45 personnes blessées. 3 mois plus tard, toujours votre pays, la Tunisie, en juin 2015, pays frappé par l'attentat de Sousse, 39 morts sur une plage. Et après ces attentats, comment, docteur Anissa Bouasker, s'est organisée l'aide psychologique aux victimes?
Tout à fait. C'était une première expérience pour nous, mais nous étions plus ou moins préparés, mais pas structurés, pas organisés. Et c'était effectivement pratiquement de l'improvisation. La première fois au mois de mars 2015, mais c'est-à-dire puisque j'étais dans le psychotrauma, j'ai toujours travaillé avec sur le psychotrauma, j'étais la plus apte à coordonner ce genre d'intervention. Et peu à peu, on a commencé à réfléchir sérieusement. D'ailleurs, l'année dernière, par décret, par arrêté ministériel, s'est mise en place la CAP, qui est la cellule d'assistance psychologique aux victimes, mais pas que victimes d'attentats, victimes de tous les accidents à victimes multiples. Et à travers les 3 expériences du Bardo, de Sousse, puis après l'attaque sur la garde présidentielle, la machine a commencé à se roder, c'est-à-dire on a commencé par le terrain, la pratique, et après on a mis en place des procédures et on a mis en place des formations grâce à l'aide de nos collègues français. Donc on a organisé en mai dernier une formation qui a concerné 60 personnels de santé, entre psychologues, psychiatres et médecins généralistes, grâce à la collaboration avec docteur Gérard Lopez, que vous devez connaître, et docteur Louville. On s'est inspiré de l'expérience française avec la création des CURMP. Chez nous, ça s'appelle la CAP, cellule d'assistance psychologique. Et nous sommes inspirés de l'expérience algérienne avec l'aide de notre collègue professeur Hakim Assouri, qui est psychiatre algérienne. Et en Algérie, durant la décennie noire, il y avait ce qu'ils appelaient le SAMU-PSY. Et on s'est inspiré des différentes expériences pour mettre en place des protections protocoles d'intervention immédiates et post-immédiates. En immédiat avec la collaboration, donc la formation s'est faite en collaboration avec le SAMU et on a eu donc l'intervention des SAMU pour nous expliquer pour qu'on puisse coordonner ensemble. D'ailleurs, le transport sur les lieux en immédiat, bon, ce n'est pas le plus important, mais quand même c'est important pour les intervenants pour avoir une idée de ce qui s'est passé, des sites, et pour repérer déjà dès le début s'il y a des réactions de stress qui ne sont pas adaptées. Le transport se fait grâce au SAMU durant les premières heures. Mais la plupart du temps, on n'a pas le temps d'intervenir au début parce qu'il y a des urgences vitales à gérer en priorité. Mais dans les hôpitaux d'accueil, on a formé des psychologues qui sont dans les hôpitaux et qui vont intervenir pendant les premières heures en attendant d'installer après 48 à 72 heures une permanence et on va l'annoncer grâce aux médias qui collaborent très bien pour dire voilà, à cet endroit-là, il va y avoir une cellule d'écoute. Et notre rôle essentiellement est de repérer les personnes, comme vous venez de dire tout à l'heure, on n'est pas tous égaux devant le traumatisme. Il y a des gens qui vont faire des réactions immédiates de détresse importantes, qui vont avoir plus de besoins que d'autres. Puis il y a ceux qui vont être peut-être en état de sidération ou de dissociation et qui ne vont peut-être plus se rappeler après. Hein. Vous pouvez ce qu'on essaie de faire, c'est établir un contact avec eux, leur dire que voilà, on est là, vous pouvez venir, revenir. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Les gens, des fois, ne se rappellent même pas. On leur donne un papier avec les coordonnées pour qu'ils puissent revenir après quand les symptômes vont peut-être disparaître, ou alors dans le cas où ils vont persister, ils vont être gênés dans leur travail, dans leur vie quotidienne, et c'est là qu'ils vont revenir et ils vont bénéficier d'un suivi.
Docteur Boisquer, justement, ce suivi, est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont été touchées donc il y a 2 ans par ces événements, un peu plus de 2 ans maintenant, est-ce qu'il y a encore certaines de ces personnes que vos services suivent encore aujourd'hui ?
Oui, mais ce ne sont pas forcément des personnes qui ont été vues au début. Hein.
Là encore, une sorte de réactivation du traumatisme plus tard.
Oui, ça peut arriver plus tard. Ils peuvent ne pas présenter de signes, de symptômes au moment de l'événement, mais plus tard, ils peuvent être vraiment très très gênés. Donc, à partir de 1 mois, ce n'est plus le rôle de la CAP, mais c'est la consultation à l'hôpital. Malheureusement, j'espère qu'on aura une consultation de psychotraumatisme en dehors de l'hôpital psychiatrique, parce que l'hôpital psychiatrique, ça reste quand même stigmatisant pour ces personnes qui ne se considèrent pas comme des personnes malades. En fait, c'est des personnes qui sont traumatisées, surtout avant le délai de 1 mois. C'est des réactions qui sont normales et qui, au bout d'une semaine ou deux, vont disparaître. Donc, c'est un peu stigmatisant pour eux de venir à l'hôpital. C'est pour cette raison que nos consultations, au début, se passent sur place dans les hôpitaux généraux. Mais au-delà de 1 mois, on n'a pas le choix. Pour le moment, on les reçoit à l'hôpital psychiatrique. À chaque fois quand il y a un grand événement comme ça, le ministère prend des dispositions pour que ces consultations soient gratuites et pour faciliter en fait l'accès aux soins et prévenir des complications. On peut avoir beaucoup de complications, comme vous venez de dire tout à l'heure, des complications dépressives, des addictions ou même ça peut aller jusqu'aux conduites suicidaires et parasuicidaires.
Hein. Merci beaucoup, docteur Anissa Boisquer, hein, psychiatre à l'hôpital Razi à Tunis. Professeur Thierry Bobet, vous vouliez réagir?
Oui, alors c'est très intéressant d'entendre comment l'équipe de Tunisie a mis en place ce dispositif. Alors le délai d'un mois dont parlait cette collègue est le même en France, c'est-à-dire que les structures d'urgence, les cellules d'urgence médico-psychologique sont missionnées pour être sur le terrain un mois. Et après, on renvoie en France, après on renvoie au système de soins normal qui est assez saturé. Et jusqu'à présent, de manière que je trouve difficilement compréhensible avec les événements qu'on vit, les autorités de santé n'ont pas jugé bon de développer des centres de soins ressources sur le psychotraumatisme en France. Des centres qui alliraient la prise en charge de patients, la recherche, l'enseignement. Ça n'existe pas et pour l'instant ce n'est pas dans les intentions mises en avant. Je pense que c'est une lacune importante. On perd beaucoup en expertise qu'on pourrait formaliser et développer et enseigner.
Et professeur,
et pour compléter,
en direct de Bordeaux, docteur Stéphanie van den Toren, on vous écoute.
Oui, juste pour compléter sur l'importance de cette prise en charge, on va dire spécialisée du psychotrauma, c'est qu'on a vu dans les études que les personnes qui avaient une prise en charge développaient moins de troubles anxieux et de dépression caractérisée que ceux qui n'en avaient pas eu recours. Je pense que ça, c'est un élément quantitatif, on va dire statistique important. Et aussi peut-être former d'autres professionnels à l'expression du traumatisme. Parce qu'on a parlé des addictions, mais il y a aussi des troubles somatiques ou d'autres expressions qui sont dues à un traumatisme et qui ne sont pas forcément
repérées
par les
personnes. Très concret, par exemple, troubles du sommeil, quelque chose de très fréquent dans ce type de traumatisme. Professeur Thierry Bobet, tout à l'heure, en première partie d'émission, vous l'avez évoqué rapidement, la pédopsychiatrie, une ressource nécessaire, particulièrement après ce qui s'était passé à Nice, l'attentat de Nice, 14 juillet 2016, 86 morts. De très nombreux enfants directement concernés. 3000 enfants ont été reçus justement en pédopsychiatrie. Et un an plus tard, il y a une tribune justement qui a réuni des grands noms de la santé mentale, vous notamment, pour réclamer plus de moyens pour les plus jeunes victimes. Quel écho a eu cet appel 6 mois plus tard ? Au moins en termes de ressources médicales, en termes de personnel de soins.
Alors, je pense que les équipes de Nice ont bénéficié de quelques moyens supplémentaires. Et l'idée là est actuellement, et c'est le professeur Florence Askenazi, qui est la chef de service de pédopsychiatrie du CHU Lanval à Nice, qui est à la manœuvre. L'idée, c'est de mettre en place une grande recherche sur l'état de santé de ces enfants et leur évolution en les suivant jusqu'à leur majorité. Une recherche qui soit aussi une recherche doublée d'un dispositif de soins, puisque la réalité, c'est qu'ils en voient énormément, qui pourrait transformer justement cette équipe de Nice en une référence nationale pour la clinique et la recherche sur les traumas intentionnels de l'enfant. C'est en discussion actuellement pour les budgets. Je peux pas vous vous en dire plus. À Nice, c'est la première fois en France en temps de paix que autant d'enfants étaient concernés par des traumatismes directs, ce qu'ils ont vu ou la peur qu'ils ont eu d'être tués, mais aussi par des deuils et des deuils parfois associés à des traumatismes, c'est-à-dire à la fois perdre ses très proches, parents ou petits frères ou petites sœurs, et en même temps voir les images de leur mort ou de la mort d'autres. Et ça, ce sont des parmi les événements les plus difficiles qu'on puisse imaginer pour un enfant. Donc il y a un gros travail à faire dans le très long terme.
Alors, ces traumatismes qui restent dans les mémoires, d'ailleurs c'est parfois même difficile simplement de l'évoquer même quand on n'a pas été directement victime, parce que à lire les articles, quand on se documente, quand on revient sur ces événements, on voit l'âge des victimes, on voit le nom des victimes, voir que c'était tout le monde qui a été visé. Il y a eu des grands mouvements après, on se souvient après ce qui s'était passé pour Charlie Hebdo, la marche du 11 janvier, une réponse collective, cet élan de cohésion. Professeur Thierry Bobet, est-ce que ces moments justement de réunion ont eu un impact sur la psychologie de ceux qui étaient directement affectés et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ?
Alors, je pense que la manifestation de janvier 2015 a dû faire du bien à ceux qui y ont participé ou à ceux qui l'ont vu passer. J'y ai participé personnellement dans un moment où on était en même temps hyper sollicité, bien sûr, de demandes de consultation. C'était un moment très particulier. Et comme le disait, comme le laissait entendre Lucien Marbeuf, l'instituteur, je pense que c'est un événement. C'est compliqué parce que on était parti avec cet événement de janvier sur quelque chose d'assez polarisé contre certains groupes sociaux, que ça soit antisémite avec l'hyper-cachère, ou contre, je sais pas, l'athéisme ou la pensée libertaire avec ou les journalistes. Enfin, il y avait des cibles, si vous voulez, des groupes cibles. Et donc on était dans cette réflexion-là. Alors vous vous rappelez tout ce qui s'était passé à ce moment-là, certains enfants qui avaient refusé de chanter la Marseillaise ou qui avaient protesté. C'était des événements quand même assez isolés qui avaient sans doute été beaucoup gonflés aussi à ce moment-là. Moi, je suis en Seine-Saint-Denis, j'ai parlé avec beaucoup de ces enfants et de ces adolescents, et personne ne m'a... Enfin, voilà. Bon. Donc, il y avait quand même ces questions et ce risque d'une division de la société qui était majeure. En novembre, l'événement tout à fait différent, hein, quand même, c'est que c'était n'importe qui, c'était tout le monde. C'était les gens qui étaient dans des restaurants, dans des bars, à un concert, les gens qui marchaient dans la rue, les gens qui allaient à un stade de foot. C'était tout d'un coup n'importe qui et tout le monde qui devenait une cible. Ça a beaucoup changé
les choses.
Et puis
ça continuait, parce qu'on disait janvier, c'était terminé dans l'esprit des gens, ça n'allait pas revenir. Et cette réactivation, vous disiez tout à l'heure justement des personnes qui ont enfoui en eux leur traumatisme, ce que vous pouviez justement étudier avec le docteur Stéphanie Van Den Toren sur le long terme grâce à ces différentes vagues et ce mal qui est en quelque sorte réactivé comme une blessure sur laquelle on viendrait rajouter encore de l'acide. Hein. Et c'est un peu ce qui s'est ressenti dans le psychisme des personnes qui avaient été affectées.
Oui, disons que vivre un traumatisme soi-même, que ça soit un traumatisme lié aux attentats ou avoir vécu un traumatisme infantile plutôt, par exemple avoir été abusé, je ne sais quoi, tout type de traumatisme, laisse en vous des lignes de fragilité, même si vous ne tombez pas malade, comme un cristal qui aurait une petite fêlure. Et sous l'effet d'un autre traumatisme dans la vie ou d'un moment symboliquement fort, comme un nouvel attentat qui arrive à d'autres personnes, par exemple, cette fêlure peut s'agrandir et peut briser, hein, les personnes. Et effectivement, on peut avoir des gens qui entendent parler de traumatismes qu'ils n'ont pas vécu et qui vont se sentir mal par rapport à un traumatisme personnel ancien qui va être réactivé. Ça, c'est des constatations fréquentes. En dehors de ces cas-là, pour la population générale, les attentats, quand on ne les a pas vécus, ça produit pas du traumatisme. Ça produit de l'angoisse, de la peur, des modifications de comportement, mais pas des troubles post-traumatiques qui sont réservés aux personnes qui ont vécu en direct les événements traumatiques.
Docteur Stéphanie Van Den Toren, notre émission touche à sa fin, mais cette question quand même, ce sentiment de peur collective, vous disiez, peut entraîner des troubles sans provoquer, on va dire, de véritables maladies. Mais pourtant, est-ce qu'on ressent dans la population, est-ce qu'il y a un moyen de mesurer comment cette menace quasi permanente, d'ailleurs entretenue d'une certaine manière par les médias, par les responsables politiques, peut avoir un impact en termes de santé publique ?
Alors, on a remarqué par exemple une augmentation du passage aux urgences pour troubles anxieux, à la fois en janvier et en novembre, jusqu'à une semaine après les événements. Donc oui, c'est pas un état de stress post-traumatique, hein. Ce sont des troubles anxieux, mais qui nécessitent quand même un passage aux urgences pour des personnes qui soit sont en suffocation, soit en attaque de panique. Et c'est un système de surveillance qu'on appelle le système de surveillance syndromique, qui est disponible à Santé publique France. On reçoit chaque jour tous les résumés de passage aux urgences. Alors ça nous permet de voir la grippe, par exemple en ce moment. Mais ça nous permet aussi de voir un certain nombre de pathologies, comme des troubles anxieux, qui peuvent être anormalement élevés. Effectivement, ces pics-là, on les a retrouvés non seulement en Île-de-France, mais également sur l'ensemble du territoire. Ce qui montre que l'ensemble de la population peut effectivement être affectée. Ensuite, il y a une autre étude qui est faite par Santé publique France en population générale et qui a montré l'importance des médias. Donc c'est Maëlle Robert qui l'amène. Et effectivement, on voit que les personnes qui sont exposées à des réminiscences d'images médiatiques peuvent aussi avoir des troubles psychiques, conséquences de ces visions en répétition.
Donc aussi faire attention, même si on parle régulièrement de prévention, il nous reste très peu de temps, mais à force de répéter justement des messages qui génèrent du stress, eh bien ça devient une sorte de prévention contre-productive, Thierry Bobet.
Oui, bien sûr. Pourtant, la prévention et la préparation sont des clés de l'adaptation aux nouvelles conditions dans lesquelles on vit, mais attention à pas terrifier de manière improductive tout le monde et notamment les enfants qui passent parfois beaucoup trop de temps devant les écrans.
Merci beaucoup professeur Thierry Bobet. Je rappelle que vous êtes psychiatre, chef du service à l'hôpital Avicenne à Bobigny, donc en banlieue parisienne. Merci à vous docteur Stéphanie Vandentoren, responsable de Santé publique France en région Nouvelle-Aquitaine, chercheur en épidémiologie sociale à l'INSERM. Vous étiez en direct de Bordeaux dans les locaux de Radio France Gironde. Merci pour leur accueil. Priorité santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Demain, nous parlerons des dangers des soins esthétiques. On vous se retrouve donc demain mardi.
C'était Priorité santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.